Vous écoutez France Culture.
Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Aujourd'hui, la grande déesse.
Souvent déjà, dans les vivants et les dieux, nous nous sommes confrontés au thème de la grande déesse, que ce soit la grande déesse en Inde, que ce soit la grande déesse à travers les résurgences que l'on a connues dans les civilisations qui nous sont plus proches, particulièrement dans les civilisations sémitiques. Par sémitiques, j'entends celles qui commencent avec les royaumes d'Akkad pour aller évidemment jusqu'à la prédication évangélique. Mais aujourd'hui, en compagnie de Yves Moati, qui est l'auteur de La déesse de nos origines et en même temps de La femme de Jésus, et évidemment le titre est extrêmement provocant, et volontairement provocateur, je dirais, tous deux livres parus aux éditions des Deux Océans, je voudrais réfléchir justement sur ce thème de la grande déesse qui nous rapproche beaucoup de ce que nous avait dit quelqu'un comme Tara Michael, qui nous rapproche beaucoup de l'œuvre de Marija Gimbutas, cette archéologue balte qui a renouvelé profondément toutes les études sur le sujet, et se confronter à cette figure qui a en quelque sorte inspiré l'humanité à partir du moment où nous pouvons en avoir des traces, et des traces à peu près compréhensibles, et précisément des traces interprétables. Yves Moati, il faut le savoir, est juriste de formation, il est juriste de métier, c'est donc quelque chose qui relève de son intime conviction, mais en même temps appuyé sur une science, on s'en apercevra, extrêmement profonde.
Mère, dans le monde, tu es la réalisation de la naissance pour ceux qui naissent. Dans l'esprit, ô mère, tu es la réalisation du yoga pour les yogins. Dans la parole, ô mère, tu es la puissance de parole pour ceux qui parlent. Dans le corps, tu es la force des souffles pour ceux qui respirent. Ô mère.
Je ne sais pas si c'est moi qui me suis intéressé à déesse mère ou c'est plutôt elle qui m'a attiré à elle comme une sorte d'aimant. J'ai été élevé donc dans cette culture dite judéo-chrétienne qui est très marquée par la figure du père, et j'ai eu l'impression que l'image de la mère était totalement occultée en moi, et elle s'est réveillée lorsque j'ai découvert les mythologies de l'Inde, la religion hindoue, et notamment lorsque j'ai rencontré une grande sainte mère de l'Inde qui s'appelle Amma ou Mata Amritanandamayi, et j'ai eu vraiment une révélation de voir que Dieu pouvait aussi se manifester sous l'aspect de la mère et non pas uniquement sous l'image du Père, qui est celle dont nous avons le plus l'habitude en Occident. Ce qui m'a passionné également, c'est d'essayer de retrouver cette image de la mère dans les religions monothéistes, aussi bien judaïsme, christianisme, voire islam, de voir comment cette image avait été occultée dès les débuts de ces religions et en même temps avait survécu sous une forme, disons, cachée, mais que malgré tout, la mère n'était pas totalement absente de nos religions dites monothéistes. Et je me suis intéressé plus particulièrement, en ce qui concerne les origines du christianisme, à ces évangiles qu'on a retrouvés à Nag Hammadi en 1945, où le Père est présenté sous la double image, dans la bouche même de Jésus, Père et Mère, masculin, féminin. Où on voit que dans ces évangiles-là, Jésus interpelle, disons, Dieu, ou parle de Dieu comme étant à la fois son père et sa mère. Autant qu'on puisse le savoir, la déesse mère, c'était l'énergie, la totalité, le tout. C'est elle qui inspirait la vie, c'est elle qui donnait la vie, c'est elle qui la reprenait, c'est elle qui, en quelque sorte, établissait sa royauté dans le monde entier, puisqu'il semble bien que la première religion était matriarcale avant d'être patriarcale. Et que si le Dieu Père existait, apparemment, il avait un rôle subordonné, secondaire, par rapport à Déesse Mère, qui était vraiment l'absolu.
Inanna, ta poitrine est un champ. Un large champ producteur de plantes, un large champ déverseur de grains. Répand pour le Seigneur en question profusion de breuvages, pour le Seigneur foison de victuailles, profusion de breuvages pour le Seigneur, des victuailles à foison. Puissais-je les recevoir de toi?
Mais alors, précisément, lorsque vous parlez de l'Inde, de Yves Moati, est-ce que d'une certaine manière, on ne pourrait pas considérer, je sais bien que tout ça est de la reconstruction, mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que d'une certaine façon, la figure de la déesse mère était précédente aux invasions indo-ariennes, comme on dit, ou indo-européennes. Lorsqu'on parle de la mer en Inde, ce qu'on appelle la mer divine, finalement, bon, qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Après tout, les Indiens parlent encore de Mother India, la mer Inde. Puis il y a toutes les petites mers locales, on le sait bien, les matriyokas que l'on trouve un peu partout. Est-ce que cette mer, quand même, n'est pas resté sous la figure, après la période des Védas, mais lorsque ça fait retour, n'est pas resté sous la figure de ce qu'on appelle la Shakti, c'est-à-dire la puissance vraiment de création.
C'est ce terme qui désigne la divinité dans toutes ses manifestations en Inde. La Shakti, c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie qui crée le monde, c'est l'énergie qui fait en sorte que tout existe, que tout vit. Et c'est par la Shakti également que l'homme peut remonter à l'absolu. Sans la Shakti, il n'y a aucune possibilité d'accéder à l'absolu.
Ô déesse, les toujours fidèles qui gardent dans leur chevelure la poussière sacrée de tes pieds sont déliés des objets du monde. C'est là une première merveille. La beauté de ton pied et tout son éclat sans violence reste un étonnement. De la force lumineuse de ses ongles, il tire sa blancheur et par elle détruit le mauvais démon. Tu vois, déesse, la souffrance du lotus qu'engendre chaque nuit les rayons de la lune. Tu en as compassion, tu le venges, heurtant d'un coup de lotus l'astre aux rayons froids, l'affligeant chaque jour dans sa tourelle, dans cette coiffure de Mahesha prosternée sous ta colère. Prosterné sous ta colère, heureux d'avoir heurté ton pied. Ô déesse, Shiva se relève. De la Ganga tombent des gouttes rougies de lac que tu prends pour gouttes de sang. Là tu t'affoles, là tu triomphes et embrasses l'aimé.
Lorsqu'on parle de la Shakti, on voit dans certaines Upanishads que le monde et la création de la Shakti, ce qui fait que du coup on se trouve devant ces espèces d'affirmations qui à nous paraissent un peu contradictoires, de dire elle est la puissance de dissipation, elle est la puissance d'ignorance puisqu'elle crée le monde, et en même temps elle est la voie de la connaissance, c'est-à-dire celle qui permet d'aller au-delà de l'apparence de monde qu'elle a créé finalement.
Elle est à la fois Ma, mère, et Maya, puissance d'illusion. Les deux termes sont presque identiques. Elle est celle qui, en créant le monde, crée une succession de voiles qui nous cache la lumière, mais elle est aussi celle qui, si nous l'implorons, que si nous suivons sa voie, nous permet de dissiper ces voiles les uns après les autres et de remonter à la lumière. Elle a un double aspect. Elle est créatrice, elle est destructrice. Elle crée le monde, elle détruit, comme Kali, qui est une déesse sanguinaire, mais elle est sanguinaire en ce sens qu'elle détruit l'ego. Donc d'un côté, elle crée le monde, mais d'un autre côté, elle nous aide à dissiper l'ignorance qu'elle a elle-même créée. Elle a une double fonction, une double image, et les deux ne sont pas du tout incompatibles dans la mythologie hindoue.
Mais alors précisément, est-ce qu'il n'y a pas souvent de notre part une incompréhension, puisque vous avez parlé de la déesse Kali, bon, on le sait très bien que la déesse Kali est toujours représentée d'une façon quand même assez peu accueillante, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ce sang qui lui coule le long des lèvres, les crânes autour de sang. Et lorsqu'on lit un texte comme la célébration de la grande déesse, on s'aperçoit en même temps qu'elle est absolument terrible, effectivement, ce que beaucoup de mystiques ont repris après, elle est absolument terrible, mais elle est absolument terrible parce que c'est aussi comme ça qu'elle s'est montrée dans le combat contre les démons.
Tout à fait. Et justement, si elle est terrible, c'est parce qu'elle fuit les démons. Et donc, ce qu'elle fait fuir en nous, c'est ce qui serait le démon, ce qui serait le mal, c'est elle qui nous aide à détruire l'ego. Le collier de crâne qui est autour de son cou symbolise justement la mort de l'ego. Quand Kabir dit « si vous voulez suivre votre maître, coupez votre tête », la seule façon d'accéder à l'innommé, à l'invisible, c'est de couper sa tête, c'est-à-dire de couper son mental, de couper tout ce qui fait obstacle, tout ce qui fait voile à cette lumière que représente la mère, tout en la voilant en même temps. C'est une sorte d'opposition, de contradiction. Mais chez les hindous, il n'y a pas, disons, ce qui est contradictoire, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Eux, ils sont extrêmement synthétiques, donc le contradictoire, on ne peut pas dire que parce qu'une chose est contradictoire, que c'est impossible, que ça n'existe pas. Au contraire, eux, il faut surmonter les dualités, il faut réconcilier les dualités, et c'est uniquement en faisant le 2-1 qu'à ce moment-là, on peut accéder à la vérité par-delà le voile. Kali est destructrice, mais elle détruit, elle nous aide à détruire ce qui nous empêche de voir la lumière.
Dans mon égarement, je crois pouvoir, avec l'argile, modeler l'image de la mer. Mais cette mer chérie, est-elle faite du limon de la terre? Est-elle faite du limon de la terre, la mer à la guirlande de crâne qui brandit le glaive? Non, c'est en vain que je travaille l'argile. La terre peut-elle éteindre la peine qui brûle le cœur? On dit que la mer est noire, mais ce noir, c'est la lumière du monde. Est-il un noir comme le noir de la mer dont je pourrais enduire l'argile? Les trois yeux de la mer, soleil, lune et feu, quel artiste saurait en reproduire un seul? Est-elle d'argile et de paille, Kali, la destructrice du mal? Non, Kali, la noire, effacera le noir dans l'âme de Prasad.
On a l'impression que dans l'Inde, qui du point de vue social, je dirais quand même, très marqué par les valeurs masculines, une femme n'est jamais, comme vous le savez, que la mère de un tel, ou l'épouse de un tel, ou la sœur de un tel, ou la fille de un tel, de cette manière. Mais on a l'impression quand même que cette figure de la déesse mère est quelque chose d'absolument fondamental. Comment se saisir de ce thème, dans la mesure où on sait très bien qu'une psychanalyse assez facile, chez nous, dirait « oui, c'est parce que tout homme, finalement, d'une certaine manière, a la nostalgie de sa propre mère », alors que là, on a l'impression quand même qu'il s'agit de tout à fait autre chose.
Ah, je pense que c'est tout à fait autre chose. Hein. Non, c'est vraiment une aspiration très profonde. L'hindou ne peut pas se concevoir sans la déesse mère. C'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez tout à l'heure, il a appelé sa propre terre « mère Inde, Mother India ». Même la terre, tout vient de la terre. Tout retourne à la terre. C'est une aspiration beaucoup plus profonde qu'une simple définition psychanalytique telle que nous la donnons en Occident. Je pense que ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment la base même de leur dévotion, de leur culte. Et d'ailleurs, lorsque les dieux doivent lutter contre les démons, ils ne trouvent d'autre solution que de faire appel à la déesse Durga, à laquelle ils donnent tous leurs attributs. La déesse Durga, c'est la synthèse de tous les dieux, et pour manifester qu'elle a la puissance de tous les dieux, chacun des grands dieux du panthéon hindou lui donne l'une de ses armes. Et c'est grâce à Durga que les démons sont chassés du monde.
Oui, mais précisément, c'était un peu la scène à laquelle je faisais allusion dans le Devi Mahatmya, dans la célébration de la grande déesse, dans laquelle on voit très bien que cet aspect tellement... lorsque Durga est... je dirais, apparaît sous le rôle de Kali, sous la figure de Kali, c'est justement à cet épisode auquel on fait allusion, ce qui souvent n'est pas très bien compris, je pense, chez nous. Mais en même temps, cette déesse mère, je veux dire, elle existait apparemment quand même largement en dehors de l'Inde, puisque à la fin du paléolithique, on en retrouve des figures. Au néolithique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le croissant fertile, on voit très bien que c'est la déesse mère qui règne, et même dans des régions comme la Corse, comme la Sardaigne, comme Malte surtout, on trouve quasiment partout des figures d'une déesse mère. Donc on a l'impression que ça a été, du point de vue de l'histoire des religions auxquelles nous pouvons avoir accès, je dirais, la puissance première.
Dans toutes les civilisations, autant que je sache, il y a toujours eu à la racine une divinité maternelle, une divinité féminine, une divinité qui imprégnait, en tout cas, toutes les civilisations du bassin méditerranéen. On trouve des traces un peu partout, que ce soit dans la préhistoire, dans le monde antique. Mais que dire de plus ? C'est un simple constat.
Mais alors, quelles sont les figurations, mais plus que les figurations, les attributs, comment cette déesse apparaît ? Parce qu'on, par exemple, on a l'impression que souvent, elle est représentée par un arbre sacré. Bon, dans le pourtour méditerranéen, c'est bien connu, elle est le palmier, elle est le dattier, elle est le pin, elle est le platane, et en même temps qu'elle est accompagnée de pas mal d'animaux. Et je pense particulièrement à un animal qui n'a pas très bonne réputation chez nous, mais dont on voit très bien que nous ne comprenons plus la signification, c'est-à-dire que est-ce que la déesse peut aller sans le serpent ?
En Crète, elle est toujours représentée avec un serpent. Dans la Bible elle-même, la divinité féminine est appelée Asherah, ce qui est symbolisé par un pieu ou par un arbre. Et on voit très bien que même dans la mythologie biblique, l'arbre est toujours associé au serpent. Le serpent, c'est le gardien, c'est un synonyme de la sagesse, c'est le gardien des trésors. Et il y a un jeu de mots en langue sémitique, je crois, qui identifiait le serpent et la vie. Donc c'est le serpent qui en quelque sorte donne la vie. Nous lui avons donné une valeur maléfique, mais dans l'Antiquité, on le voit très bien notamment en Crète, le serpent avait une valeur bénéfique. Il symbolise aussi la mutation permanente des êtres, des choses. Il se desquame en permanence, il symbolise un peu la vie qui se renouvelle en changeant de peau. Il est aussi synonyme de soleil. Dans les hymnes védiques, on identifie le serpent au soleil. Il a une valeur de celui qui donne la vie, celui qui donne la lumière. Et c'est vrai que dans les civilisations antiques, il est associé à la déesse mère. Et il se trouve que les religions monothéistes ont inversé les valeurs et ont fait d'animaux qui étaient sacrés, qui étaient vénérés dans les religions dites païennes, en ont fait, au contraire, des animaux plutôt maléfiques. Tauende morgen, o via mutatir. Die Kühle des Abends, o via quicketir. Die Abend ist er unter Früchte Saft. Wie reutend ist der Blumen süßer Duft. Doch ohne dich, doch ohne dich, doch ohne dich, ohne dich.
En vous écoutant, Yves-Moati, je pensais au début de la Genèse, que tout le monde connaît, c'est-à-dire au mythe d'Ève, d'une certaine manière, et je ne peux pas m'empêcher de me dire, Ève est au milieu du jardin, et on sait à quel point dans les hymnes anciens de la déesse, le jardin était son lieu d'élection, si on peut dire. Dans ce jardin, il y a un arbre, et dans cet arbre, il y a un serpent. Et je me dis, est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas la manière dont on a essayé de se défaire justement du culte de la déesse à travers la figure d'Ève ?
C'est une histoire dont on ne sait pas trop d'où elle vient. Manifestement, il y a plusieurs interprétations possibles de cette histoire-là. Donc il est vrai qu'on a retenu l'aspect, disons, maléfique, le serpent qui tente Ève qui tente Adam et qui entraîne Adam dans sa chute. Mais on peut l'interpréter de façon différente. Et d'ailleurs, ça a été fait dans certains milieux chrétiens où on dit qu'en réalité, c'est une sorte d'initiation que le serpent a voulu transmettre à Ève. Le serpent a une valeur initiatique. Le serpent a voulu faire comprendre à Ève qu'elle pouvait goûter le fruit de la connaissance. Et d'ailleurs, lorsque Yahvé s'aperçoit que Adam et Ève ont goûté du fruit, on ne sait pas de quel fruit il s'agit exactement, il se dit, mais ils sont devenus comme des dieux.
Oui, j'entends bien, mais bon, c'est à quoi vous faites allusion, si je vous suis bien. Thomas Yves Moati, c'est plus ou moins aux thèses qui sont soutenues, par exemple, par les zoophytes. C'est-à-dire une secte. Mmh. Une secte. Renonçons à ce mot, étant donné la connotation que ça a pris aujourd'hui. Mmh. Disons, un mouvement gnostique, de cette manière. Mais moi, je faisais simplement allusion à la, je dirais, à la tradition installée sur le début de la Genèse et sur la tentation d'Ève. Et on a l'impression quand même que il y a, la femme va être quand même, va enfanter dans la douleur, la femme va être sous la domination de l'homme, et d'une certaine manière, il suffit d'ailleurs de lire les grands théologiens, une sorte de malédiction de la femme par laquelle est entré le péché originel. Et c'est là où je me demande, est-ce que pour installer le Dieu Père, on n'a pas dû se défaire, comme d'ailleurs tout au long de la Bible, finalement, est-ce qu'on a pas eu se défaire du culte de la déesse mère?
Ah, tout à fait. On a donné une valeur maléfique au serpent, à la femme, et ça a été une occasion de rejeter la déesse mère. Sachant tout de même que ces textes, autant qu'on puisse le savoir, ont été écrits à une époque très tardive, sans doute vers le 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, pas du tout à l'époque de Moïse. Donc ça a été une reconstitution pour essayer de justifier la puissance d'Israël, le royaume d'Israël, le roi d'Israël, disons il y avait une volonté hégémonique de justifier l'existence d'un État par rapport aux populations qui existaient, et ce sont des, disons, les théologiens de l'époque qui ont inventé cette idée-là. C'est pas, disons, c'est pas un mythe ou une image qui remonte si loin que ça dans le temps, c'est une réinterprétation à une époque moderne dans des buts plus politiques peut-être que d'essayer d'instaurer ou de réconcilier les Hébreux avec leur propre religion. On voit constamment dans cette Bible qu'on évacue la déesse mère. On voit que les Hébreux continuent à adorer la déesse mère. Régulièrement, tel que, enfin, si nous ont bien la Bible, on s'aperçoit qu'il y a des prophètes qui se lèvent au sein d'Israël pour dire aux Hébreux, rejetez la déesse mère, rejetez vos cultes, les images que vous fabriquez sont des idoles, il faut jeter, brûler les Asherahs, il faut jeter les divinités, et ça apparaît régulièrement au cours des siècles dans l'histoire d'Israël. Donc si ça apparaît régulièrement, ça veut dire que les Hébreux ont continué à adorer une déesse mère et que les prophètes ont eu toutes les peines du monde à éradiquer ce culte. Et c'est pour ça qu'ils ont été peut-être obligés d'inventer des mythes, d'inventer des mythologies qui évacuent complètement la déesse. Mais la déesse apparaît constamment. Si les prophètes se lèvent contre la déesse, c'est qu'elle est toujours là. Et si Salomon accueille au sein du temple des Asherahs, c'est que même à l'époque de Salomon, la déesse était toujours présente, était toujours vénérée par les Hébreux.
La question qu'on peut se poser, Yves Moati, c'est de savoir si cette croyance en la déesse mère n'était pas quelque chose qui était, je dirais, quasiment essentiel pour le peuple, puisque vous avez raison, on voit très bien comment les prophètes sans arrêt s'élèvent contre ce culte. Si je me rappelle bien, c'est Jérémie qui dit « Vous adorez toujours la reine du ciel alors que Yahweh est là, vous vous détournez de lui, etc. » Ce qui veut dire que la déesse est toujours adorée à l'époque. Mais est-ce que ça ne tient pas aussi à tout le contexte, je veux dire par là, que les peuples de Canaan, ou de manière plus large, lorsqu'on va à Ougarit avec la déesse Anat, etc., croyaient profondément à la déesse, et qu'il suffit de remonter à la figure d'Ishtar, il suffit de remonter à la figure d'Inanna à Sumer, pour voir que la déesse avait été quasiment dominante dans la région.
Dans tout le monde méditerranéen, notamment dans cette région, la déesse était prédominante, donc les Hébreux ne pouvaient pas ne pas être influencés par les peuples au sein desquels ils vivaient. sachant qu'il y a eu forcément des mélanges, des contacts, des mariages, mais je crois qu'également dans la propre tradition hébraïque, l'image de la mère n'était pas absente, que dans l'arche elle-même, Dieu était représenté sous son aspect à la fois masculin et féminin, et Asherah, ce n'est rien d'autre que la parèdre de Yahvé. Et cette idée a été transmise au fil des siècles par la Kabbale juive, notamment, qui admet très bien que la Shekhinah ou la Shekhinah est l'énergie ou l'aspect féminin de Dieu.
Ce qu'on peut se demander, Yves Moati, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de réaction générale contre le culte de la déesse et la manière dont, je dirais, les valeurs patriarcales ont voulu s'imposer. Parce que je pense à un mythe que nous connaissons tous, et qui est celui de la pitié de Delphes. Lorsqu'on lit les hymnes de Homérique, on voit très bien comment Apollon arrive, comment c'est un oracle de la déesse mère, comment il va tuer le grand serpent, d'une certaine manière, et prendre la place. Donc on a l'impression aussi qu'il y a une espèce, comment dire, de révolte générale contre le culte de la déesse.
Et tout à fait. Ça se manifeste notamment dans les religions antiques, en Grèce, où on voit, dans la mythologie elle-même, comment les dieux finissent par supplanter les déesses mères, et notamment l'ancienne déesse terre. Petit à petit, les dieux, effectivement, supplantent les divinités. Et ça se traduit dans la civilisation elle-même par des sociétés de plus en plus patriarcales. On a l'impression que les deux vont de pair et que les anciennes sociétés matriarcales disparaissent progressivement et laissent place à des sociétés patriarcales où c'est le roi qui domine et non plus la reine.
Oui, mais précisément en même temps, dans cette domination du roi, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très neuf. Qu'il y a une conception du pouvoir nouvelle qui s'instaure, parce qu'on voit très bien comment dans les antiques cultures, je pense particulièrement à Sumer, mais dans de vieux rituels gaéliques ou celtiques, on le retrouve aussi, le roi n'est illégitime que s'il épousait la représentante de la déesse, ce qu'on appelait une hiérogamie. Parce que là, on a l'impression que, le pouvoir n'existait qu'appuyé sur la puissance de la déesse, et le roi n'était légal que parce qu'il était légitime ayant épousé la déesse. Et on a l'impression que là, tout à coup, il y a une notion du pouvoir qui s'auto-justifie elle-même, si l'on peut dire, et qui est entièrement reliée à une idéologie masculine.
Ah, tout à fait. Disons, c'est cette idéologie masculine ou patriarcale qui s'impose petit à petit, et parallèlement, elle s'impose dans la mythologie, puisque en même temps que l'idéologie masculine ou patriarcale s'impose, que l'idéologie matriarcale féminine diminue, il en va de même avec les divinités. Les divinités masculines finissent par l'emporter, par supplanter les divinités féminines.
Mais est-ce que ce n'est pas de cette façon-là qu'il faudrait éventuellement relire un texte que nous sommes habitués à interpréter différemment? Je pense à quelque chose comme la théogonie d'Hésiode. Parce que lorsqu'on voit les différentes générations qui se succèdent, on s'aperçoit qu'au départ, il y a le chaos. Le chaos en grec, ça veut dire la faille, ça veut dire l'aberrance. Autrement dit, c'est l'appareil féminin, d'une certaine manière, puis la terre-mère, et puis on voit peu à peu, comme de génération en génération, c'est le pouvoir des hommes qui va s'imposer. C'est-à-dire, comment se débarrasser finalement de cette mère si encombrante?
Disons, on a l'impression que tout en reconnaissant à l'origine une valeur féminine, tout en reconnaissant la primauté de la déesse-mère, petit à petit, ses enfants la supplantent, et notamment ses enfants masculin. Et c'est le poids du mal qui l'emporte petit à petit sur celui de la femme. Comment l'expliquer, je ne sais pas. C'est une évolution que tout le monde peut constater. Il suffit d'étudier un tout petit peu l'histoire des religions pour l'apercevoir. Donc, toutes les théologies, il y a cette idée que l'homme est sorti de la nature, que la nature est sa mère, mais qu'il s'en est éloigné, il s'en est rendu indépendant, et c'est le culte du du héros, du moi qui l'emporte, et non plus celui des valeurs féminines, des valeurs matriarcales, enfin autant qu'on puisse le déterminer.
Lorsque vous dites, Yves Boiti, que la déesse reste toujours présente, je dirais, est-ce qu'elle ne va pas prendre des visages qui étaient peut-être inattendus, mais dans lesquels on la retrouve? Je pense par exemple au livre des Proverbes, tout un chapitre, vous savez, qui est consacré à la sagesse, et on a l'impression que la sagesse, qui est décrite comme une jeune femme finalement, qui est auprès de Dieu, qui a existé de toute éternité, on a l'impression que la sagesse est une sorte de réhabillage, si l'on peut dire, de l'ancienne Asherah.
Tout à fait. La sagesse, ou la Sophia en grec, elle joue le jeu de Dieu, elle est l'architecte de l'univers, elle est constamment présente aux côtés de Dieu. C'est elle qui donne la vie, dit ce même texte. On a vraiment l'impression qu'elle réapparaît en permanence, d'une façon ou d'une autre, et quand on lit le livre de la sagesse, on a tout à fait le sentiment qu'elle a un rôle presque aussi important que celui de Yahvé. Elle est l'énergie de Yahvé. Elle est l'acte de Yahvé. L'un ne va pas sans l'autre.
Oui, mais c'est là où je me pose la question de dire, est-ce que d'une certaine manière, les Hébreux, là, ne redécouvrent pas, je dirais, au moins l'idée fondamentale, qui est par exemple celle de la chatironade?
Je crois également. C'est pour moi, enfin, la sagesse, c'est l'énergie. Et la Shakti, c'est l'énergie. C'est tout à fait, à mon avis, c'est exactement l'équivalent. Sauf que en Inde, elle est glorifiée, elle apparaît de façon omniprésente, là elle apparaît d'une façon un peu détournée, où il faut un peu interpréter, un peu analyser pour la réhabiliter totalement. Mais elle n'est pas absente, elle réapparaît en permanence.
Et Yves Moitié, est-ce que de ce point de vue-là, ce n'est pas cette figure qui va donner lieu à toutes les spéculations de la Kabbale, puisqu'on sait que l'arbre des Séphirotes, qui est quand même la présence même de Dieu, la Shekhinah, c'est, si l'on peut se permettre ces mots, la face féminine de Dieu, et que la manifestation de Dieu, le Dieu complètement inconnu, le Dieu inconditionné, le Dieu au-delà de toute délimitation, de toute définition, ce Dieu ne peut se donner que dans un espace féminin.
C'est la manifestation, l'énergie, la création, et la création a toujours une valeur féminine.
Mais alors, est-ce que c'est pour ça que la dernière séphira, c'est précisément la séphira Malkout, la royauté, et que c'est une séphira féminine qui, justement, fait le lien avec notre monde à nous?
Peut-être. De même que dans les spéculations gnostiques, c'est la Sophia qui fait le lien entre notre monde à nous et le royaume. On a l'impression que dans les spéculations gnostiques, il y a parfois des parallèles avec la Kabbale juive. On a l'impression que ce sont les mêmes images, les mêmes valeurs qui réapparaissent sous des formes, des dénominations différentes.
Dans le sanctuaire de mon cœur, ce champ de crémation, quelle est cette femme échevelée? Langue jaillissante, 800 crânes à son cou, un glaive dans la main gauche, pourquoi cette forme terrifiante? Son corps est tout couvert de sang et comme le tonnerre, son rire retentit.
Puisque vous faites allusion à la gnose, qui est d'abord une gnose chrétienne, historiquement, enfin qui s'inscrit dans l'horizon du christianisme, disons, Yves Moitié, j'aimerais bien qu'on s'y attarde un peu, dans la mesure où là aussi on a l'impression finalement que cette figure de la déesse mère réapparaît à travers des figures comme la sagesse, effectivement, bon ça c'est peut-être hérité des Hébreux, ou à travers la figure de Marie, Marie. C'est souvent Marie-Madeleine, et que dans les dans les reconstructions ou dans les constructions ou dans les descriptions qu'on nous donne de la création du monde, finalement, je pense déjà au premier qui est Simon le magicien, c'est lui qu'on a dit le magicien, dans lequel le père est toujours père et mère, finalement.
Ah oui, dans les spéculations gnostiques ou dans les différentes mythologies qui ont été construites par ces mouvements gnostiques, Dieu est à la fois père et mère. Dans le christianisme officiel, Dieu est à l'image du Père, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Marie, la Vierge Marie, apparaît, on a l'impression, un peu tardivement. Elle est une sorte de ressurgence de l'aspect féminin de la divinité. Mais dans la théologie chrétienne, la Vierge Marie est la mère de Dieu, mais jamais Dieu la mère. Alors que chez les gnostiques, l'image de Dieu en tant que mère est valorisée sur le même plan que Dieu en tant que Père. Pour ces courants diagnostiques, Dieu est à la fois masculin et féminin, est à la fois père et mère. Les deux valeurs sont complémentaires et l'un ne va pas sans l'autre. Notamment chez Simon le magicien et chez la plupart des mouvements gnostiques.
Oui, mais lorsqu'on s'intéresse à la figure de Marie, j'aimerais là aussi qu'on ait quelques commentaires dessus, Yves Moiti, dans la mesure où on voit très bien qu'au début, je dirais au moins pendant les deux ou trois premiers siècles, la théologie chrétienne ne s'y intéresse pas beaucoup, et où on a l'impression que peu à peu elle va s'y intéresser sous la pression du peuple et du peuple croyant, comme si le peuple, lui, réclamait une mère. Et je me dis, c'est quand même assez étonnant de voir dans le légendaire que finalement, là où va se réfugier Marie, avec Jean, bien sûr, mais là où va se réfugier Marie, c'est quand même dans la ville d'Éphèse, qui est quand même l'une des grandes villes de la déesse, l'ancienne Artémis, et que c'est à Éphèse qu'elle va mourir, c'est à Éphèse que va être proclamé le dogme sur sa maternité divine. Donc on a l'impression que dans la psyché collective, finalement, des croyants, il y a une demande, et une demande extrêmement forte.
C'est le sentiment qu'on a, autant qu'on puisse reconstituer l'histoire des religions, on a vraiment l'impression que cette image s'est imposée à l'Église et que l'Église ne peut pas faire autrement que de restaurer, que d'indiquer quelque part cette figure féminine qui ne pouvait pas totalement disparaître. Le Dieu Père était là, il est défini, mais il manquait quelque chose. On a vraiment l'impression, effectivement, que c'est sous la pression ou la pression populaire ou sous un courant auquel l'Église ne pouvait pas résister, qu'on a réhabilité l'image de Marie, de la mère de Jésus, qu'on en a fait un intermédiaire entre Dieu et l'humanité, qu'on en a fait la mère de Dieu au sens très fort du terme, alors que l'image même de Marie n'est pas valorisée à ce point-là quand on lit les évangiles canoniques, en tout cas.
Oui, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est cette espèce de construction, si l'on peut dire, dans laquelle on voit bien que les théologiens sont souvent assez réticents, et l'Église, dans sa constitution, a toujours été extrêmement réticente. Il suffit de penser à la proclamation d'Éphèse, puis celle de Chalcédoine, mais enfin Éphèse d'abord, Marie Théotokos, Marie Mère de Dieu, et on voit bien comment un certain nombre de théologiens qui s'y opposent disent oui, mais vous vous rendez compte, si elle est la Mère de Dieu, elle est la... Comme les trois personnes sont équivalentes l'une à l'autre et ne sont que des hypostases de la même réalité, ça veut dire qu'elle est la mère du père, ça veut dire qu'elle est à la fois son épouse et ça veut dire qu'elle est à la fois sa fille. C'est-à-dire, je dirais, nous sommes en plein inceste sacré. Et là, on a l'impression qu'on retrouve de vieux scénarios de la mythologie ancienne.
Ah, tout à fait. Disons, on a l'impression que le thème même de la Vierge Mère s'est repris de la mythologie antique. On a l'impression qu'il a fallu composer. Il y avait un courant très fort qui était toujours sous l'influence ou qui toujours revendiquait l'importance de la déesse mère. Et il y a sans doute eu des controverses entre théologiens pour savoir quelle place allait-on pouvoir donner à cette figure féminine. Et on a trouvé d'autres meilleures images que celle de Marie pour restaurer l'aspect féminin, l'image féminine en quelque sorte... pas tout à fait de Dieu, mais de l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et c'est Marie qui devient l'intermédiaire entre l'humanité et la divinité. Et effectivement, il ne fallait surtout pas qu'elle devienne l'égale, l'équivalente de Dieu. Elle est la mère de Dieu, en ce sens qu'elle est la mère de Jésus, qui est Dieu lui-même, mais jamais on la met sur le même plan que Dieu le Père. Et pourtant, on permet au peuple de lui vouer un culte, de l'adorer en permanence, un peu comme on adorait autrefois les idoles sacrées.
on voit très bien comment il y a eu historiquement, je dirais, une prédominance des valeurs masculines et des valeurs à la fois culturelles, sociales et, je dirais, théologiques d'un Dieu Père. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui nous sommes dans une époque où quand même ça commence à beaucoup vaciller?
Disons, les religions occidentales, notamment le christianisme, sont quand même remises en question depuis, pas seulement depuis le XXe siècle, mais depuis quelques siècles, disons. La déchristianisation a non seulement comme conséquence que les églises se vident, mais également que les êtres qui se posent des questions ont tendance à les voir ailleurs, notamment du côté de l'Inde. Et c'est pas intermédiaire de l'Inde que la déesse mère, à mon avis, peut réapparaître, ou en tout cas qu'on peut avoir à nouveau une connexion, une image enfin positive de l'aspect féminin de Dieu. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'Inde, que l'Inde n'a pas perdu ses traditions que nous avons cultées depuis 2000 ans, et que par intermédiaire de tout ce qui se passe en Inde, notamment la mythologie, mais également le culte vivant, l'apparition de sages qui sont aussi bien des hommes que des femmes, de ces saintes mères qui vivifient la spiritualité indienne, je pense que, effectivement, la déesse mère peut réapparaître sous son véritable aspect.
Mais en même temps, on a beaucoup de... Enfin, en dehors de l'importation de formes, je dirais que se ranger entièrement à la vie de l'Inde, c'est aussi s'expatrier de soi-même, d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il n'y a pas... S'il n'y a pas des pistes dans lesquelles on pourrait retrouver cette figure selon nos propres canons à nous.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'après un passage par l'Inde, il est extrêmement enrichissant de se plonger dans ces textes qui ont été redécouverts il n'y a pas si longtemps que ça, dans ces évangiles diagnostiques, qu'on ne peut comprendre, à mon avis, qu'à la lumière métaphysique universelle. On ne peut absolument pas comprendre, comme on l'a fait jusqu'ici, les évangiles de Nagamadi, les évangiles diagnostiques à la lumière de la théologie chrétienne, tout simplement parce qu'ils ne répondent pas du tout aux catégories, aux critères de la théologie chrétienne. Et lorsqu'on lit ces évangiles d'un œil neuf, notamment l'évangile de Thomas, on redécouvre dans la bouche même de Jésus cette valorisation permanente de l'aspect féminin de Dieu. Dans la bouche de Jésus, Dieu est à la fois père et mère, est à la fois masculin et féminin. Et il y a une parfaite cohérence, une parfaite complémentarité entre les deux aspects. Et cela va si loin qu'à un moment donné, Jésus dit « Ma mère m'a enfanté, mère avec une minuscule, mais ma mère véritable avec une majuscule m'a donné la vie. » Dans sa bouche, la mère, c'est pas seulement celle qui donne la vie au sens physique du terme, c'est celle qui donne la vie avec un V majuscule, c'est-à-dire l'initiation, la vie dans la divinité. Celle qui donne la réalisation, qui donne la lumière. La mère féconde, la mère donne naissance à l'être humain, mais aussi donne naissance à l'esprit en nous-mêmes. Et lorsque... Enfin, le véritable symbole de la Vierge Marie, à mon avis, c'est celui que certains mystiques avaient compris, notamment Angelus Silesius, c'est la Vierge Marie. Pourquoi est-ce que je dois être comme la Vierge Marie? C'est ce que je dois être en sorte que mon mental soit aussi pur, aussi blanc, aussi immaculé, aussi vierge que celui de Marie, pour pouvoir enfanter en moi Jésus. Et c'est tout à fait cet aspect-là qu'on le retrouve dans les évangiles de Nag Hammadi, notamment dans celui de Thomas ou dans d'autres comme celui de Philippe. Il y a constamment cette valorisation de l'aspect féminin de Dieu. Dieu le Père, Dieu la Mère, et constamment Jésus dit aussi faites le Dieu un, faites le mâle et la femelle, le masculin et le féminin, un seul en vous-même. Mais c'est une démarche qu'on retrouve dans toutes les initiations orientales, occidentales, antiques. Il faut connaître le masculin, adhérer au féminin, il faut faire le Dieu un, il faut que les deux parts qui sont nous-mêmes soient intégrées, complémentaires, de façon à réaliser l'unité. Et c'est vraiment ça qui est passionnant. C'est qu'on trouve dans ces textes-là, qui sont à la base même des religions occidentales, même s'ils ont été occultés, qui circulaient, qui étaient extrêmement diffusés au début du christianisme, où il y avait sans arrêt des débats, où on s'aperçoit que le christianisme est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus multiple, beaucoup plus controversé que l'image qu'on en a aujourd'hui, toutes ces démarches-là, tout cet aspect féminin de l'absolu était présente, vivante et mise dans la bouche même de Jésus. Jésus, à mon avis, exprimait une vérité universelle, cette vérité qui est la source de toutes les traditions de toutes les religions. Je ne pense pas qu'il ait jamais voulu fonder une église ou qu'il ait jamais parlé même de passion, de résurrection ou qu'il ait même eu un groupe de disciples auquel il aurait donné pour mission de fonder une église, quelle qu'elle soit. Il s'est contenté d'exprimer une vérité qui jaillissait spontanément en lui-même. Qui faisait pas référence à telle ou telle religion, même forcément au judaïsme, mais qui était une vérité qui coulait de source en lui-même. Et c'est constamment un mouvement d'aller et retour entre cette origine, qu'on ne peut pas déterminer, qui est indéfinissable, inexprimable, ce mouvement de l'unité qui se manifeste dans la dualité, dans la multiplicité, et qui après, par ce jeu d'aller-retour, permet de retourner à l'unité. C'est un jeu constant, un mouvement permanent. Jésus dit à un moment donné, quel est le signe du Père qui est en vous? C'est un mouvement et c'est un repos. C'est un mouvement, ça symbolise tout à fait la multiplicité, dirait-on le samsara en Inde. Et le repos, ben, c'est l'absolu, c'est le vide, c'est le calme, ce serait le nirvana en langage indien. Et vous savez très bien que les bouddhistes disent mais qu'il n'y a aucune différence entre le nirvana et le samsara, il n'y a aucune différence entre le samsara et le nirvana, le nirvana et le samsara et le nirvana, et c'est dans l'un comme dans l'autre que l'on trouve le tout. Le mouvement et le repos, c'est un mouvement, disons cette image très forte, dans lequel Jésus englobe la totalité. Le tout, l'un, c'est ce repos absolu, cette origine, mais qui est constamment en mouvement. C'est un jeu d'aller-retour. L'un crée le deux crée la multiplicité, et de la multiplicité, on retourne au deux, et du deux, si on arrive à concilier les contraires, on retourne à l'unité. C'est un jeu permanent.
Dans un ordre d'idées qui, dans la profondeur, est assez proche de ce que nous venons de voir, je voudrais signaler d'abord l'ouvrage de Gérard Nadaf, « Le concept de nature chez les présocratiques » aux éditions Klingsic. Plutôt que nature, d'ailleurs, on devrait se servir du terme grec « la physis », cette physis dont, selon les étymologies, on trouve la trace du verbe « phuestai » en grec, c'est-à-dire la naissance, ou alors une vieille racine indo-européenne, celle que l'on marque par les lettres BRH précédées d'une étoile, qui montre que ça a été recomposé par les philologues et qui désigne quelque chose qui est de l'ordre de l'accroissement et qui est finalement la même racine que l'on trouve dans brater, ce qui a donné le frater latin, notre frère, ou ce qu'on trouve dans le brahman des hindous. Et de ce point de vue-là, et à travers justement essayer de comprendre quel est ce concept de nature, de physis, chez les présocratiques, c'est-à-dire chez les philosophes qui ont précédé non seulement la figure de Socrate, mais surtout la grande œuvre de Platon, donc à travers des poètes comme Homère ou Hésiode, ou des philosophes comme Anaximandre ou Héraclite ou Pythagore, pour finir avec Anaxagore de Clazomène, Gérard Nadaf essaie de nous montrer comme la nature est quelque chose qui est de l'ordre de l'origine, mais de l'origine telle qu'elle est manifestée, et où donc c'est en même temps la description d'une trajectoire de cette manifestation en tant que telle pour arriver jusqu'à l'achèvement de cette origine, et où d'une certaine manière il y a en même temps un lien extrêmement profond entre ce qui est l'origine du monde, ce qui est l'origine des hommes, ce qui est l'origine de la cité, jusqu'au moment où ils atteindront leur perfection, si tant est évidemment que la perfection soit de ce monde. C'est la loi qui permet aux hommes de former un cosmos, malgré leurs différences. Les humains pourraient dès lors se rendre maîtres de leur destin, de leur tuquet, et de créer leur propre avenir. D'autre part, je voudrais m'intéresser, ne fût-ce qu'un court instant, au volume publié par les éditions Bayard, volume collectif intitulé « Ce que la Bible doit à l'Égypte » avec une préface de Thomas Romer, dont on sait qu'il est professeur au Collège de France dans ce genre de domaine d'études. Et de ce point de vue-là, on voit très bien comment on n'est pas très loin de ce qu'a déjà publié, par exemple, quelqu'un comme Otmar Kiel, professeur à l'Université de Fribourg, sur le Cantique des Cantiques, où il montre comme le Cantique des Cantiques, au-delà des influences acadiennes ou des influences babyloniennes que l'on connaissait déjà, est extrêmement influencé par la grande poésie amoureuse de l'Égypte. Et d'une certaine manière, à travers des considérations sur l'Exode, à travers des considérations sur la figure de Moïse, bien entendu, et de ce point de vue-là, on n'est pas très loin de l'homme au Moïse de Sigmund Freud, ces études, cet ensemble d'études, plus exactement, essaie de nous montrer à quel point la Bible est marquée par l'Égypte, à tel point que l'on a pu dire que si l'Égypte n'avait pas existé, la Bible n'existerait peut-être pas. L'Égypte qui est à la fois l'opposé, mais qui en même temps exerce une extraordinaire fascination sur les scripteurs ou sur les scribes de la Bible, et où on le retrouve à travers des correspondances entre la sagesse judaïque et la sagesse égyptienne, ou entre la dialectique qui s'instaure entre la pratique des oracles, par exemple en Égypte, et la prophétie telle qu'elle se développe dans le territoire judaïque. Et l'étude de ce point de vue-là, d'ailleurs, au-delà de cas tout à fait convenus auxquels on ne pouvait pas ne pas s'attendre, comme celui du pharaon Akhenaton, l'étude va jusqu'au monachisme chrétien pour montrer comme les pères du désert, eux-mêmes, non seulement étaient héritiers de la Bible, mais étaient héritiers aussi d'une très profonde tradition égyptienne. Le silence, avec l'humilité du cœur, est l'une des vertus cardinales du sage égyptien, dont la vie est en conformité avec la Ma'at, l'harmonie divine régissant le monde. Par ailleurs, et puisque nous parlions de la Bible, je voudrais signaler aussi la réédition, chez Droz, des livres de Salomon de Sébastien Castellion. De quoi s'agit-il, sinon de l'une des premières traductions protestantes en français de textes bibliques? Castellion avait déjà donné à Bâle, au milieu du XVIe siècle, une Bible nouvellement translatée, et où il est réuni l'ensemble des textes qui sont attribués à Salomon, c'est-à-dire les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, sur l'arrière-fond d'ailleurs d'une controverse avec le médecin et prédicateur, le théologien en même temps, qui était Théodore de Bèze, et surtout Calvin, dans la mesure où on est renvoyé à la très vieille controverse, qui date d'ailleurs pratiquement du début de notre ère, pour savoir si un livre comme le Cantique des Cantiques, par exemple, est véritablement un livre saint, ou, selon l'expression de Castellion, est-ce qu'il ne fait preuve que des débordements de Salomon, et est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas un livre des amours impudiques. Et de ce point de vue-là, c'est une plongée dans l'univers spirituel du XVIe siècle, et sans aucun doute, en même temps, l'une des traductions les plus soignées du point de vue du style, qui nous donne comme un abord différent de textes que nous avions bien cru connaître jusqu'ici. Écoute ton père, lequel t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, quelque vieille qu'elle soit. Achète vérité et ne la vends pas, sagesse, instruction et prudence. Un père d'injuste tressaillit de joie, et qui a engendré un sage en est bien aimé. Enfin, je voudrais terminer par la publication aux éditions Les Belles Lettres de ce qui est titré « Trois grands poèmes religieux », mais qui en réalité renvoie à de grands poèmes en provenance de l'Islande, c'est-à-dire la patrie des sagas en tant que telle, un texte qui s'appelle le Geisli de Einar Skolason du XIIe siècle et qui chante les exploits de Saint Olaf, celui qui a christianisé l'Islande. D'autre part, un texte appelé le Lignarbrout, la voix de la grâce, due à un anonyme très proche de l'esprit franciscain. Et enfin, les Passus Salmar, le cantique de la passion du pasteur Peterson au XVIIe siècle. Et où on voit comme il y a là une continuité dans des textes qui sont à la fois pleins de bruit et de fureur, même si ce sont des poèmes religieux, comme il y a une continuité de l'esprit des sagas jusque dans le christianisme, et comment à travers la méditation sur la croix, il y a une méditation ininterrompue dans la civilisation scandinave sur la puissance du destin et la manière dont Dieu lui-même, au-delà des humains, comment Dieu lui-même a partie liée avec ce destin. Toutes les trahisons des hommes et toute mauvaise conduite, le Seigneur les annihile lorsqu'il le veut. Sa décision demeure immuable éternellement et son gouvernement est stable. La ruse des arrogants passe rapidement.
Les livres aujourd'hui. Le concept de nature chez les présocratiques de Gérard Nadaf aux éditions Klimsic. Un collectif, ce que la Bible doit à l'Égypte aux éditions Bayard. Une réédition des livres de Salomon de Sébastien Castellion aux éditions Drose. Et trois grands poèmes religieux aux éditions Les Belles Lettres. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Yves Moati. Texte lu par Frédéric Prévost, recherche sonore Eliane Letellier, mixage Éric Boissé, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.